Amen. Alors, Pascal a commencé en disant, il est temps maintenant de venir à la prédication, et elle a dit merci à Francesco. Donc moi, j'ai cru que Francesco allait devenir prêcher devant, je n'étais plus très sûr. Ça, on n'a rien dit. Mais, est-ce que je peux te demander, Francesco, de prier pour la prédication, s'il te plaît? Amen. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous êtes réveillés. Parce que le dimanche matin, où on a dû avancer les heures, eh bien, je trouve ça un petit peu douloureux. Mais je suis heureux de pouvoir partager ce que je pense que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce matin, j'étais devant Dieu et je sens que je devais changer mon message. Alors, je ne suis pas aussi préparé que je pourrais l'être parce que j'ai vraiment à cœur de parler de quelque chose de spécifique. C'est la passion. Et le titre de ce message, c'est « Ce qui te rend génial peut aussi te détruire ». Ce qui te rend génial peut aussi te détruire. Alors, on a tous est-ce que vous connaissez des gens qui ont des passions? Est-ce que vous connaissez dans vos vies des gens qui ont des passions? Je ne sais pas, si peut-être qu'il y en a certains, des passions, c'est aller à la salle de sport. Je ne veux regarder personne. Peut-être d'autres, c'est de passer du temps avec des amis. Leur passion, c'est les gens. Il y a toujours des gens qui ont des passions. C'est quelque chose dans lequel on s'investit beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Et souvent pour lesquels on est aussi doué parce qu'on met toute notre énergie dedans. Voilà, il y a quelqu'un dans cette église qui fait du self-défense. C'est sa passion. C'est-à-dire que tous les lundis soirs, elle va prendre des cours où elle apprend à taper sur les gens. Alors je trouve ça formidable. Mais on peut voir que quand elle en parle, c'est sa passion, une passion que moi j'ai partagée quand j'étais adolescent, parce que j'allais beaucoup dans ces cours de self-défense, ça m'a aidé au niveau de la confiance en moi. Et on peut remarquer souvent avec les gens passionnés, quand on parle à des gens passionnés, c'est facile de pouvoir apprendre d'eux. J'ai un ami qui étudie la médecine, et je vous promets, un jour il m'a expliqué c'était quoi un diabète de type 2. Au jour d'aujourd'hui, je m'en souviens toujours et je pourrais vous l'expliquer parce que quelqu'un de passionné m'a expliqué scientifiquement qu'est-ce que ça voulait dire. Mais il y a les passions et alors parfois on rencontre des gens, il faut l'avouer, ils ont des passions bizarres. Est-ce que vous connaissez des gens avec des passions bizarres? Non? Peut-être pas? Mais si vous avez rien à la tête, moi j'ai préparé une petite vidéo pour vous que Léa va maintenant vous projeter. Hein? Voilà, parfait. Je vais juste appuyer sur espace. Pardon, appuyez une fois sur la vidéo et puis voilà. Hop là. Et la musique. Voilà. C'est parfait. Alors, moi quand j'étais adolescent, il y a un nouveau style de musique qui est apparu. Et je vous avoue que c'était un petit peu bizarre. Ce style de musique-là s'appelait la tectonique. Et franchement, il faut être passionné pour danser ça, parce que moi, je ne pourrais pas, je ne danse pas naturellement, mais bon. Alors, une autre passion bizarre, c'est que je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le repassage de l'extrême. Alors, c'est vraiment un vrai truc, je ne blague pas. Le repassage de l'extrême, ce sont des gens qui vont devoir repasser une chemise dans des conditions extrêmes. Alors, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que Benjamin nous fait? En quoi est-ce que ça a un rapport avec la parole de Dieu? Mais ce sont des gens qui ont des passions. Ils vont donc repasser leur chemise dans des conditions très extrêmes. C'est un vrai truc, hein, je ne vous blague pas. Et alors, on peut voir comme ça que c'est vraiment leur passion. Une autre passion, c'est empiler des gobelets. Voilà, ça c'est vitesse réelle. Hein. C'est une compétition. En 5 secondes, il a fait tout ça. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Et on peut voir que quand il réussit, ils sont vraiment passionnés, ils sont heureux. J'ai une autre amie à moi. Sa passion, c'est la photographie. Alors, un jour, elle est venue vers moi et... Ah oui, non, juste avant, vous connaissez ça? Pour les jeunes, plus jeunes d'entre nous, voilà, c'est le DAB. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le DAB, c'est pas très grave. C'est c'est pour les jeunes. Alors, j'ai une autre amie, sa passion c'est la photographie. Et donc elle a pris une photo de moi. Voilà. Alors moi, je trouvais c'est une photo belle. Voilà, j'ai une casquette. Je peux faire semblant d'être cool pour une fois. Mais le problème c'est que j'ai mis cette photo sur Facebook et que j'avais des amis qui étaient passionnés par quelque chose qui s'appelait Photoshop. Et ils ont commencé à m'habiller de façon un petit peu bizarre. Vraiment, c'était un peu spécial. Je ne sais pas si vous connaissez cette série télévisée, peut-être elle va vous paraître étrange, mais c'est une série télévisée qui a beaucoup de succès pour le moment. Et après ça, on a continué, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec ma tête? On ne peut rien mettre sur Internet sans pour autant avoir des choses. Hein, c'est une autre série télévisée qui s'appelle Col Blanc, je crois, en français. Et puis ça, c'est la dernière. Ça, c'était des gens qui avaient des passions. Voilà, tu peux couper la vidéo. Voilà, est-ce que ça va si on rigole un peu dans l'église? Ça va? Ça va? Je sais pas, je rencontre parfois, peut-être certains chrétiens, on a l'impression qu'ils étaient baptisés dans le vinaigre. Je pense qu'on peut un petit peu, on peut un petit peu rire le dimanche matin, puisque Dieu rit, alors on a le droit de le faire aussi. Mais pour devenir un peu plus sérieux, la passion c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça peut nous aider à grimper des montagnes, fournir des efforts supplémentaires. Ça peut nous aider à nous dépasser, vraiment. Les passions, c'est à la mode aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir jouer à la louange alors qu'on a mal à la gorge, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait, on est passionné par notre église. Et moi je voudrais bien prendre un exemple de quelqu'un qui était passionné dans la Bible. Et cette personne-là, il s'appelait Moïse, pardon. Alors Moïse, c'est le descendant d'une famille, le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sa famille s'était installée en Égypte depuis de nombreuses années. Et voilà, il y avait un membre de sa famille, il y a des années avant Moïse, il y avait un membre de sa famille qui s'appelait Joseph, qui par des circonstances assez extraordinaires, était devenu gouverneur du pays. C'est-à-dire qu'il était numéro 2 de la nation d'Égypte, il y avait le pharaon et juste après il y avait Joseph. Et il a permis à toute sa famille, mais plus que sa famille aujourd'hui, ça veut dire son peuple, sa famille très 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 étendue, sa tribu, il a permis de s'installer et de devenir un peuple riche et qui prospérait. Mais longtemps après la mort de ce gouverneur qui s'appelait Joseph, on a les Égyptiens qui ont pris peur du peuple qui vivait parmi eux et ils ont essayé de contrôler leur population d'une façon assez horrible. On a ça comme explication dans la Bible. À l'époque où Moïse est né, on était censé tuer tous les bébés mâles des Hébreux. C'était vraiment un génocide. Mais grâce à des circonstances assez extraordinaires, Moïse n'est pas seulement resté en vie, mais il a été élevé dans une des plus grandes familles de tout le pays. La famille royale, la famille du roi local, la famille du pharaon. C'était devenu un prince d'Égypte. Une histoire très célèbre. Et on comprend par les circonstances que Moïse, il a l'air assez passionné par les choses qu'il habite. Il a l'air assez passionné par les convictions qu'il a. C'est vraiment un gars où on voit, si, il est droit, il est comme il est probablement un peu trop cash avec les gens. Et on peut voir un petit peu qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Exode chapitre 2. En ces jours-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et vit leur corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il se tourna d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'avait personne, il l'abattit et le cacha dans le sable. Il le tua et le cacha dans le sable. Alors Moïse voit une situation totalement injuste envers ses frères. Totalement injuste. Et de ce fait, il tue la personne. Il cache son corps dans le sable. C'est là où on peut voir que Moïse, c'est quelqu'un qui avait une passion, un feu qui brûlait en lui, mais il a laissé ce feu le consumer entièrement. Il y a beaucoup de situations dans la vie où on est consumé par notre propre passion. Exemple de passions qui ont détruit, moi je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu des divisions dans les églises, mais c'est souvent à cause de passion. Les gens sont passionnés et de leur passion, il y a des divisions qui prennent, qui sortent dans l'église. Souvent même les disputes entre les gens qu'on aime, ça vient de relations assez passionnelles. Le passion et la personne m'a blessé, je suis vraiment blessé. Et de là, on va un peu tout casser sur notre chemin. D'autres formes de passion, moi je connais, il y a des hommes d'affaires. Ce sont vraiment des hommes d'affaires talentueux, ils ont un cerveau pour les affaires. Mais s'ils laissent ces passions-là les consumer, tout ce qu'il y a autour d'eux, leur famille, leur hobby, eh bien il n'y a plus rien, il n'y a que le business. Beaucoup de gens qui se sentent appelés à prêcher l'évangile peuvent être consumés par leur passion aussi, les évangélistes. Moi personnellement, je remarque souvent que j'aime les gens, mais cette passion d'amour pour les gens pourrait aussi me détruire, pourrait aussi me casser. La passion en soi n'est pas mauvaise, mais elle peut causer des dommages collatéraux, comme ici on le voit dans la vie de Moïse. Ce feu qui brûle est une force vraiment puissante qui peut nous emmener très loin, mais qui peut aussi nous faire du mal si on ne le gère pas correctement. En gros, ce qui te rend génial peut aussi causer ta perte. Ce qui te rend génial peut aussi causer ta perte. Je prends cet exemple souvent, je vais dans des églises et j'ai un pasteur qui pourrait venir me voir et me dire « Benjamin, j'ai ce jeune dans l'église, je ne comprends pas, il a un problème avec l'autorité, mais il amène des gens à l'église. Mais il a vraiment un problème avec l'autorité. Mais il amène tous les dimanches des nouvelles personnes avec lui, je ne comprends pas. » Et puis alors ce jeune-là, quelques semaines plus tard, va venir me voir et me dire « Benjamin, mon pasteur, il n'est pas chrétien. » Il ne veut pas qu'on sorte, il ne veut pas qu'on aille à l'extérieur pour parler aux gens de Jésus. Hein, c'est quelqu'un qui a un appel d'évangéliste en puissance et qui n'est peut-être pas encore vraiment formé, qu'il faut peut-être un petit peu l'accompagner dans sa passion. Mais on peut voir souvent que ce qui nous rend génial peut aussi causer notre perte. Continuons un petit peu l'histoire de Moïse. Verset 13 du chapitre 2. Comme il sortait le jour suivant, il vit deux Hébreux qui se querellaient, et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Il répondit, « Qui t'a fait chef sur nous ? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur, il se dit, « Ainsi la chose se sait. » Quand Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit pour échapper au Pharaon, il vint s'installer en Madian, et il s'assit près d'un puits. Ce que parfois on est appelé à penser, c'est qu'une passion nous donne de l'autorité. Nous sommes tellement investis dans quelque chose qu'on force notre passion sur les autres. C'est déjà arrivé. Et comme dans notre exemple où Moïse, ce qu'il essaye de faire en questionnant ses amis hébreux, c'est pas mauvais en soi, il dit « arrêtez de vous battre ». Mais comme il était consumé par sa passion, c'est pas reçu par les gens autour de lui. C'est pas résumé « qui es-tu toi ?» Qui t'a établi sur nous. Et parfois, il y a même des gens qui ont mal utilisé leur passion dans l'endroit où nous sommes, et nous avons dû subir les conséquences de ça. De quelqu'un de passionné qui s'est laissé consumer. Parfois aussi, on est dans des endroits où les passions ont fait des dégâts, donc maintenant les gens ont peur, on ne veut plus rien essayer de nouveau, parce que ça pourrait se recommencer, ce qui s'est passé avant. On peut voir quand les passions ont fait des dégâts. Mais je ne pense pas que Moïse était quelqu'un de méchant. On peut même voir dans la suite de son histoire que c'était vraiment quelqu'un de très spécifique aux yeux de Dieu. Il avait une relation privilégiée. Regardons la suite de son histoire. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, les défendit et fit boire leur troupeau. Moi j'aime bien Moïse. Quand ils furent de retour auprès de Reuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a fait boire le troupeau. » Il dit à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme ? Appelez-le qu'il vienne manger ici. » Moïse accepta de s'installer chez cet homme et lui donna sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appelait du nom de immigré, car dit-il, je suis immigré dans un pays étranger. Et là, on a quelque chose de positif qui se passe dans la vie de Moïse. Sa passion lui a provoqué la faveur des gens. Oui, lorsqu'on est passionné, ça se remarque. Ça se remarque quand on est passionné. Et parfois, dans certaines saisons, notre passion va nous amener de la faveur. On va avoir la faveur des gens à cause de ce qu'ils voient en nous. On a du succès dans nos études, avec nos amis, on réussit, c'est chouette, on avance. Mais parfois le succès peut nous monter à la tête. On donne plus, on donne trop. Mais ce qu'on peut vraiment apprendre de bien de Moïse, c'était que c'est quelqu'un qui avait des bonnes choses dans son cœur. Il avait vraiment quelque chose de positif, mais son caractère n'était pas encore prêt. Son caractère n'était pas encore prêt. Si ta personnalité est qui tu es, eh bien, ton caractère est la façon dont tu t'exprimes. Je ne sais pas si votre conjoint, vos parents vous ont déjà dit « tu as un sale caractère ». C'est arrivé à personne, je sais, moi peut-être, mais pas ici. Tu as un sale caractère. C'est-à-dire que quand la pression augmente, la façon dont j'exprime qui je suis est exécrable. Hein, c'est ça. Si notre personnalité c'est qui nous sommes, notre caractère c'est comment nous exprimons qui nous sommes. Bon, on dit souvent que les gens peuvent avoir un sale caractère, c'est-à-dire lorsqu'on est frustré, on exprime mal notre frustration comme un enfant qu'il ferait. Il y a beaucoup de moments dans la vie où on a tout le potentiel, tous les dons pour servir Dieu. Mais on n'a pas encore le caractère pour ne pas être consumé par le poids de la charge. Alors Dieu nous appelle et nous prépare. Après dans notre histoire, Dieu arrive sur scène. Il était présent, mais il arrive sur le devant de la scène, il est au-dessus de tout cela. Et regardons un peu comment Dieu réagit. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient et criaient encore dans l'esclavage. Les appels au secours qu'ils lançaient dans leur esclavage montèrent vers Dieu. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites déçus. Exode 3. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son bon père, qui était prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu, à l'Horeb. Le messager du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi est-ce que le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir, alors Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse! Il répondit, je suis là. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Dieu qui brûle sans se consumer. Est-ce qu'il existe quelqu'un qui est plus passionné que Dieu dans l'univers? Quelqu'un qui est plus investi dans sa création, dans son œuvre? Moïse, il voit ce buisson qui brûle sans se consumer, un feu qui représente la sainte présence de Dieu, qui a choisi de demeurer quelque part, une force passionnelle qui brûle sans se détruire. Imaginons ce Dieu fort, puissant, créateur, impétueux, ingénieux, ce Dieu qui a planté la vie sur terre, qui a mis la vie dans l'univers, qui a façonné les étoiles, les trous noirs, qui a séparé la terre, le ciel, qui a créé un univers si vaste et si grand qu'il est difficile pour l'homme d'en saisir l'immensité. Ce Dieu passionné, aimant, saint, a choisi de faire demeurer sa présence dans un buisson qui ne se consume pas. Et Dieu demande à Moïse d'enlever ses sandales pour comprendre le fait que celui qui est là n'est pas n'importe qui. Moïse venait d'une religion, venait d'un peuple où la religion c'était polythéiste des dieux, il en avait vu des centaines, peut-être même des milliers en Égypte. Mais ce Dieu qui se présente à lui, ce Dieu qui se présente à lui est différent. Il est saint. Et il essaie de faire comprendre ça à Moïse. Ôte tes sandales, parce que la personne à qui tu t'adresses, elle est spéciale. Dieu, il a choisi Moïse car il le connaissait le fond de son cœur. Dieu était capable de voir le fond du cœur de Moïse. Dieu, il voit le cœur des gens et il voit dans notre cœur toute la valeur des choses. Dieu est la seule personne qui va toujours nous considérer à notre juste valeur. Si quelqu'un parfois nous a traités pas à notre juste valeur, Dieu est la personne qui va rétablir ça. Parce que Dieu sait. Dieu voit au-delà même de nos défauts qui on est. Dieu n'est pas surpris lorsqu'on n'agit pas bien. On ne prend pas Dieu par surprise. Dieu connaît toutes les choses dans nos cœurs. Le Seigneur dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste. un pays où ruisselle le lait et le miel, là où habitent plein de gens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi, et voici qu'il sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Et là, on a un petit peu du mal à comprendre, notre ami Moïse. Il est passé où, le sauveur des jeunes filles au puits? Moïse, c'était la personne qui avait vu une troupe de brigands embêter cette jeune fille, et il allait régler la situation. Voilà, donc si vous êtes célibataire, il faut traîner près des puits, apparemment, c'est là où on peut trouver une femme. C'est ce que l'histoire nous dit, je ne sais pas. Peut-être je vais tirer conseil, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, on a cette personne qui a un petit peu presque, je veux dire, le complexe de Superman. Et alors, il était passionné, il était là, et il voulait sauver son peuple. Et là, Dieu est devant lui et dit, « Va sortir mon peuple !» Et Moïse dit, « Qui suis-je ? Moi ?» Il est passé où, le sauveur des jeunes filles, le redresseur de l'injustice, celui qui a abattu un Égyptien car on avait porté la main sur son peuple? Dieu l'appelle, c'est son moment, et puis plus rien. Moïse a été cassé par ses passions et brûlé par celles-ci. Il se sent plus du tout apte à être un sauveur et encore moins à avoir de l'autorité. Moïse est peut-être un peu cassé, il était prince d'une des plus grandes nations de la terre à l'époque, et il se retrouve maintenant à garder les bergers d'un prêtre local. Est-ce qu'il y a pas beaucoup de fois où nous sommes motivés par quelque chose, et parce qu'on était brûlé par notre passion ou par la passion des autres, on est cassé, on est sans autorité? Seigneur, j'avais dit oui pour que tu viennes dans ma vie et maintenant rien ne va plus. J'ai pas le futur que j'espérais, j'ai pas le boulot que j'espérais, j'ai pas la relation que j'espérais. Si on laisse ces événements-là dans nos vies définir qui on est, on pourrait se retrouver comme Moïse. On répond à l'appel de Dieu et on dit oui à ses plans qu'il a pour nos vies. Mais est-ce que c'est possible que les circonstances aient cassé la flamme que Dieu a mis en nous? Est-ce qu'il est possible que les circonstances ont cassé la flamme qui est en toi? On peut investir toute notre passion, tout notre amour dans quelque chose et on nous le retire. Et c'est fini. On est à terre. On peut se sentir mort à l'intérieur parfois. Et là, Dieu, il se présente et il dit, « Moïse, je t'appelle, approche avec humilité, je vais t'envoyer vers tes amis, vers tes proches, vers ta famille, je vais t'envoyer comme une lumière dans les ténèbres. » L'histoire de Moïse continue et Dieu lui révèle sa puissance et son plan pour faire sortir le peuple persécuté de la main des Égyptiens. Mais moi ici ce matin, je voudrais bien m'arrêter ici. Je voudrais bien proposer une rencontre avec ce Dieu de l'arbre qui brûle mais qui ne se consume pas. Si on a dit oui à Dieu dans notre vie, il faut savoir que la présence qui était dans l'arbre, elle réside maintenant en nous. Dieu réside en nous et il veut qu'on devienne comme cet arbre qui brûle mais qui ne se consume pas. Si on n'a pas encore pris une décision pour Dieu dans la vie, on a toujours cette opportunité de dire oui à Dieu. Et ce Dieu de l'univers, ce Dieu très puissant, peut décider, ok, moi je vais décider de faire régner ma présence dans mon fils ou ma fille. Je ne sais pas du tout dans quelle saison de ta vie tu te trouves. Je ne vais pas faire semblant de le savoir. Mais il faut vraiment se rendre compte que parfois les choses qui sont nos forces, les choses qui nous rendent géniales peuvent aussi participer à notre perte si on ne laisse pas Dieu agir sur celles-ci. Ce que je parle ici, ça peut paraître un peu abstrait, alors je voudrais bien donner deux exemples. Souvent, un sujet qui est parfois un peu controversé, la sexualité. J'en parle souvent avec des jeunes, c'est quelque chose de formidable et ça a été créé par Dieu dans la Bible. On décrit souvent la sexualité comme un feu. Et dans la Bible, le feu, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de pur, qui purifie, qui alimente, c'est quelque chose de bien. Mais cette passion doit se dérouler dans le foyer du mariage. Pourquoi ? Imaginons, je suis dans ma maison et je mets le feu un peu partout. Dans la chambre, dans la cuisine. Oui, peut-être ça va aller. Peut-être je vais faire un petit feu dans ma chambre, ça va aller. Mais il est possible que, alors que je fasse le feu dans ma cuisine, toute la maison se retrouve brûlée. C'est une possibilité. Maintenant, si je fais le feu dans le foyer, là où il doit être, ce feu-là va réchauffer toute la maison. Il va protéger toute la maison, il va apporter de la chaleur. Ça, c'est une passion qui brûle, mais qui ne se consume pas. Dieu, il veut demeurer en nous et être la source de toutes nos passions. Toutes les passions qu'on exprime. Il veut forger notre caractère pour qu'on soit prêt à affronter la vie. Parce que Dieu sait parfois que les circonstances que la vie va nous amener, ça va nous casser. Alors c'est pour ça que parfois, il essaie de nous façonner d'une façon certaine. C'est parce qu'il ne veut pas qu'on soit cassé. C'est lui qui voit notre vraie valeur. Moi, il y a des moments dans ma vie où je me suis senti comme Moïse. Vraiment à terre, cassé. Où je ne comprenais plus les circonstances, elles étaient devenues difficiles. Quand je lis l'histoire de Moïse, évidemment, je n'ose pas imaginer que j'ai subi les mêmes choses que lui, prince d'Égypte à garder des moutons. Mais il y a des moments où on peut quand même se sentir cassé comme ça, où on se sent à terre. Et la question se pose, où est-ce que notre feu de la passion, il est allumé? Est-ce qu'il est allumé est-ce qu'il est à la bonne place? Je me rappelle très bien, je parlais avec quelqu'un et on parlait un petit peu de mettre Dieu en priorité dans nos vies. Mettre Dieu en priorité dans nos vies. Et parfois, j'aime pas ce mot-là. Parce que si je mets Dieu en priorité dans ma vie, ça veut dire que ça va être la priorité et puis il y a des trucs autour qui ne sont pas la priorité où je vais quand même le faire. Mais je le fais sans Dieu. Maintenant, si je dis, je veux inclure Dieu dans toute chose que je fais, même quand je vais au tennis, même quand je vais au Krav Maga, même quand je vais faire du repassage de l'extrême, je veux inclure Dieu dans toutes les choses que je fais. Jésus, soit le centre de ma vie, soit au centre de toutes les choses que je fais. Là, ça devient intéressant. Souvent, on Madame la logopède. Compartimentalise. On compartimente Dieu dans nos têtes. On fait plein de compartiments. Il y a Dieu dans une boîte et puis il y a le reste dans d'autres boîtes. Et les boîtes ne se touchent pas. Ça, c'est plus pour les hommes. Je sais que les femmes, c'est plus une grande armoire où tout se touche. Oui, mesdames, il y a une boîte dans la tête des hommes qui s'appelle Je ne fais rien et il ne faut pas la toucher. C'est important. Mais il est vrai que parfois, on va créer des compartiments avec Dieu. On va laisser Dieu quand on est à l'église, mais quand je fais d'autres choses, ça c'est moi. Et puis, il y a des circonstances qui vont nous sauter dessus et on ne comprend pas. Ces passions nous ont tués. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas peut-être avoir un changement au niveau de notre pensée, où on est renouvelé par Dieu pour lui laisser la place. Et on lui dit, ok, moi j'ai été cassé par les passions de quelqu'un, ou mes passions m'ont cassé. J'ai besoin de toi Dieu, j'ai besoin que tu me relèves comme tu as fait à Moïse. Moi je suis comme Moïse, là tu m'appelles, et je dis, mais moi je suis qui? Ou peut-être on est dans une saison de faveur, nos passions nous amènent vraiment beaucoup de faveur. Il faut juste dire, ok, moi Seigneur, la faveur, je la soumets à toi. Je reste dans tes voies. Comme ça, même si j'ai beaucoup de succès, ça ne me montrera pas à la tête. Amen. Amen. J'aimerais bien qu'on se mette devant Dieu. Je veux donner l'opportunité à ceux qui se sentent totalement consumés de venir auprès de celui qui brûlait l'arbre sans le consumer. Seigneur, on vient devant toi avec humilité. Et on veut te remercier pour ta parole qui nous apprend des choses chaque jour, Jésus. Seigneur, il y a peut-être des gens ici qui ont été cassés par la passion des autres ou par peut-être même par la... notre propre passion, Jésus. Saint-Esprit, je demande que tu puisses commencer à agir dans les cœurs et à vraiment faire une œuvre nouvelle. Seigneur, je te remercie aussi pour toute personne qui est là, qui est dans une saison de faveur, Seigneur, où les circonstances jouent en notre avantage. Père, on veut rester soumis à toi, on veut que ce soit toi la source ultime de toute notre passion. Seigneur, viens nous aider à ne pas te mettre dans des boîtes, à ne pas te mettre dans la boîte du dimanche, mais vraiment à t'inclure dans toutes les choses qu'on fait. Seigneur, viens forger notre caractère à être de plus en plus comme toi, à pas juste être à tes pieds et avoir notre personnalité qui s'exprime comme toi tu exprimais la tienne. Pour qu'on puisse affronter les circonstances de la vie, Seigneur, qui sont parfois difficiles, où on est parfois totalement inadapté, Jésus. Oh, Seigneur, on veut vraiment passer un moment dans ta présence, que tu puisses nous révéler des choses. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. J'aurais bien vous laisser un moment pour avoir un temps de réflexion avec Dieu. Peut-être qu'il veut montrer des choses dans nos cœurs, et peut-être qu'il veut nous dire des choses. Alors moi, je pourrais dire 1000 mots, mais je pense que si Dieu nous parle directement, c'est beaucoup plus efficace que si moi je vous convainc. Amen. Alors on va profiter d'un chant pour pouvoir faire ça. Et après, je vais proposer à ceux qui veulent de pouvoir avancer après le chant. Et on va prier pour eux. Ça va ?